France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le bassin minier du Pas-de-Calais.
La mine, paysages durs et sombres où la poussière noire recouvre tout. La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles. Mais la mine, qu'est-ce encore ? Surtout et avant tout des hommes. Ces hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre. Ces hommes, ce sont les mineurs, à qui on a tout demandé et qui ont tout donné.
Et qui se sont tus. Depuis le grand affaissement des années 70-80, le bassin minier survivait comme entouré de silence. Les socialistes, devenus puissance dominante, attributrice des anciens logements des charbonnages, soignaient leur clientèle d'une façon qui ne manquait pas d'étonner d'autres socialistes. Les communistes, fidèles à leur tradition, protestaient. Les communistes du Pas-de-Calais ont ceci de particulier qu'ils protestent même contre le reste du Parti communiste. Dorénavant, Noyelle Godot, la cité natale de Maurice Thorez, est surtout connue pour son grand centre commercial, et Hénin Liétard est devenu Hénin Beaumont. Mais la reconversion économique est difficile et le chômage encore important, autour de 20% pour les jeunes et les seniors. C'est là que le Front National, apparu dans la région il y a un quart de siècle, a choisi de cultiver une implantation en profondeur pour créer un frontisme municipal, comme il y a eu un socialisme ou un communisme municipal. C'est là du côté de Courrières, qui ne peut oublier la mémoire de la catastrophe de 1906, que Jean-Luc Mélenchon a choisi de se porter avec lance et bannière à la députation pour reconquérir, je le cite, la Jérusalem du monde ouvrier. Les 14 communes de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, avec leur décor propret de jardinets, redeviennent le théâtre d'une geste dramatique. Diana Cooper-Ruchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la mine. Vous avez publié, il a été réédité sous une nouvelle forme il y a peu, chez Tempus Perrin, Un peuple de la nuit. Je vais vous inviter aujourd'hui à nous raconter comment il vivait au jour, à la surface, dans la région du Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, vous le décrivez comme un Far West dans les années 1830-1840.
Oui, il est vrai qu'on partait à la recherche de veines riches. Et donc, il y a eu toutes sortes de forages qui se sont faits, parfois dans le parc de certains châteaux, pour essayer de trouver le charbon et de l'exploiter.
À Oigny, 11e circonscription du Pas-de-Calais, dans le parc du château de la veuve d'un banquier. On ne va pas parler de cette époque Far West, ni du 19e siècle. Au fond, il y a Zola auquel vous rendez un hommage répété.
Oui, je crois que Zola représente vraiment la mine dans l'imaginaire des Français. Et en fait, dans son ouvrage, on n'est pas Germinal, on n'est pas très très loin de la réalité.
Il est révéré des mineurs d'ailleurs.
Il est révéré des mineurs et il a inspiré beaucoup de mineurs qui se sont eux-mêmes mis à écrire à cause de Zola.
On va parler, nous, du XXe siècle. L'humanité du Far West s'est organisée dans le bassin minier telle une fourmilière. Dites-vous, c'est une famille de familles. Reportage à la télévision en 1958, Jacques Crière et Étienne Laloux.
Bruay en Artois, 4h du matin. À la cité 14, rue de la Comté, il y a de la lumière. C'est Gisèle Flao, la mère de famille, qui est déjà levée.
Roger.
Oui. Roger a 15 ans, il est galibot. Il travaille au fond depuis 2 ans.
Alors, t'as remonté de bonne heure à midi?
Ah oh, bah t'es sûr, aujourd'hui est samedi, hein. Puis qu'on adore les faire un tas. Enfin, vers 1h, 1h30, serait l'autre, ça.
Roger ne sera pas de retour avant 13h40. En face des Flao, au 25 de la rue de la Comté, habitent les Delmotte. Madame Delmotte est l'amie de Madame Flao. Henri Delmotte travaille dans la même taille qu'Henri Flao, au siège 4. D'ailleurs, tous les hommes de la cité travaillent au siège 4. Ils se relaient au fond de 8h en 8h. Les mineurs travaillent 48 heures par semaine. La femme gère le budget du foyer. C'est elle qui répartit à chacun son argent de poche. Pour sa quinzaine, Roger touche 500 francs, Henri 600, Maurice 1000, leur père 1500 francs.
Ah, si, avec ça, vous aurez les 15 jours. Faut faire attention.
Et chacun utilise son argent de poche à sa façon.
Henri, on est mieux dans un pigeonnier que le pose, hein?
Le pigeon, pour le mineur, c'est quelque chose de doux, de céleste, qui contraste avec la mine et sa dureté. L'oncle Henri aussi est colombophile. Valenbois, le retraité, se passionne aussi pour les pigeons. L'uniformité du coron se répercute jusque dans les loisirs.
L'uniformité du coron, elle passe par le fait que tout le monde fait la même chose, la même heure, sous la conduite des femmes, rarement femmes de mineurs, travaillent.
Alors, dans l'organisation d'une famille de mineurs, il est clair que la femme joue un rôle central. Et dans le chapitre que j'ai consacré au travail des mineurs, j'ai consacré une partie à la femme, parce que je pense que sans la femme, l'organisation de la famille est impossible. C'est-à-dire que les enfants, qui travaillent souvent aussi à la mine à partir de 12 ou 13 ans, ont besoin de quelqu'un pour préparer le casse-croûte qui est emporté au fond, pour préparer le déjeuner avant de partir, pour préparer les vêtements, pour faire la lessive, et pour que la maison soit propre au retour des travailleurs, et d'autre part, pour que les baquets soient pleins d'eau, pour qu'ils puissent se laver. Parce que pour un mineur, enlever la poussière du charbon, c'est peut-être la tâche première en rentrant du travail.
La maison, essentielle dans les débats politiques d'aujourd'hui, dans les luttes électorales de 2012, mais en 1958, dans le son. On entendait la maison comme lieu de la sécurité.
Il est clair que la maison, le logement, est quelque chose de central dans la vie d'un mineur, mais aussi c'est quelque chose de central pour les houillères et les charbonnages. Pourquoi ? Alors, pour les houillères et les charbonnages, pourquoi est-ce que le logement est important ? Il est important parce que, pendant tout le 19e siècle, les charbonnages et les compagnies ont cherché à attacher à côté du puits cette population, parce que cette population, en vertu du travail qui était si difficile, avait tendance à fuir. La maison est importante pour le mineur, parce que le mineur a besoin d'un lieu convivial, quand il rentre du travail, et c'est là que tout le monde se retrouve. Il y a la communauté à l'intérieur de la maison, mais il y a aussi la communauté dans la rue, parce que les corons, ce sont de longs ensembles de bâtiments conjoints, les uns à côté des autres, et donc tout le monde se retrouve, soit sur le pas de la porte, soit pour parler dans les jardins qui sont derrière.
Vous parlez du renouvellement. Oui, parce qu'on imagine, vous employez le mot, une race minière. Mais le bassin minier du Pas-de-Calais est le fruit de sédimentation, d'immigrations successives. Les paysans des environs qu'il faut attacher au travail régulier de la mine, les Belges, les Polonais.
Les Polonais,
dans les années 20.
Oui, les Polonais sont arrivés pour les premiers un petit peu avant la guerre de 14, en petit nombre. L'objectif, c'était de recruter des Polonais très croyants, très pieux, très pratiquants, et qui recristianiseraient le bassin minier français, qui était justement en déchristianisation. Et puis, la vraie politique pour faire venir les Polonais, elle date de la fin de la Première Guerre mondiale.
Et la politique pour les faire partir. Ne vous mettez pas en colère, Diana Cooper-Ruchet, vous n'avez jamais entendu ce document qui vient des actualités cinématographiques de Gaumont. Nous sommes après le début de la crise économique en 1934.
Dans cette région minière, plus de la moitié de la population ouvrière est étrangère. On vient d'apprendre que les mineurs polonais retiennent prisonniers au fond de la fosse de l'Escarpelle 20 travailleurs français pour protester contre l'expulsion de deux de leurs compatriotes. Voici les mineurs français après leur libération. Leur séjour forcé au fond de la mine dura 37 heures. Sur la proposition de M. Rochard, préfet du Pas-de-Calais, M. Cueil, chargé de l'intérim du ministère de l'Intérieur, a décidé l'expulsion des grévistes polonais. Cette mesure a ramené le calme dans la population qui, indignée, avait violemment manifesté sa réprobation. La garde mobile arrivée sur les lieux dès le début des événements a dû à plusieurs reprises s'interposer. Les mineurs polonais, renonçant à toute nouvelle tentative de rébellion, se sont mis à faire leurs préparatifs de départ. Beaucoup d'entre eux étaient installés dans la région depuis plus de 10 ans. Après avoir rapidement emballé les objets qu'ils pouvaient emporter et vendu le reste, ils se sont rendus à la gare accompagnés de leur famille. Certes, cet exode nous émeut, mais il importe de se montrer sévère à l'égard de ceux qui ont manqué au devoir que leur a imposé la généreuse hospitalité de la France. Un train spécial ramène les mineurs en Pologne.
la compagnie de l'Escarpelle ici citée, c'est dans la 11e circonscription, c'est avant la nationalisation des Louvières, du Pas-de-Calais d'aujourd'hui. 17 trains spéciaux.
Oui, en effet, les mineurs polonais qui avaient été amenés après la Première Guerre mondiale s'étaient bien installés. Ils étaient venus en famille, souvent avec des prêtres. Ils avaient leur propre école, leur propre association qu'on appelle les Sokols. Et puis, en 1934, après, avec la crise, on leur a demandé de partir. Mais on leur apportait le billet d'expulsion à la sortie de la mine. Et en 48 heures, ils devaient faire leur bagage. Ils n'avaient le droit qu'à 30 kilos. On les mettait dans le train, on les conduisait jusqu'à la frontière belge.
Le train n'allait pas jusqu'en Pologne ?
Il n'allait pas jusqu'en Pologne. On les laissait à la frontière belge avec leur valise de 30 kilos. Il fallait se débrouiller.
Mais on a connu une situation, à certains égards, au moins au moment de la venue, comparable avec les Marocains dans les années 1960.
Oui,
sergent recruteur sur place, transport collectif là pour l'aller.
Oui, et puis contrat d'un an seulement pour les Polonais, 18 mois, deux ans au mieux. Des logements qui sont souvent très spartiates, pas d'arrivée en famille comme les Polonais, et des ouvriers marocains, qui ont été finalement laissés pour compte lorsque les mines ont fermé, sans les avantages du statut du mineur et sans vraiment de situation annexe ou de remplacement.
Si communautarisés, je parle surtout des Polonais là, qui aient pu être ces mineurs d'origine étrangère, il s'intègre à la puissante culture minière, qui est la culture du Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais, la culture du peuple, et plus encore, évidemment, dans le cas des mines.
Oui, parce que je crois que finalement, toutes ces personnes se sont fondues en un espèce de grand prolétariat de la mine. Et ils ont, par exemple, les Marocains et les Polonais n'ont pas appris vraiment à parler le français. Ils ont appris à parler le ch'ti, ils ont appris à parler ce qu'on appelle le rouchi, qui est à moitié du patois picard et un peu de langage industriel. Ils se sont fondus dans les associations progressivement et ça a formé une communauté. Une communauté qui est, à mon avis, en grande partie soudée par le danger quotidien. Les mineurs sont soumis à des dangers qui viennent de partout. Et donc, ça soude une communauté.
Vous parlez de ch'ti, de rouchi, ça tombe bien. On va entendre une chanson d'Edmond Tanière, qui a été mineur avant d'être chansonnier. C'est pas le seul, d'ailleurs. Vous citez des écrivains mineurs, les fils de Zola, des chansonniers mineurs, comme Jules Mousseron.
Oui, je crois que les mineurs sont peut-être le groupe d'ouvriers manuels qui ont le plus écrit, curieusement. Peut-être parce que leur milieu est plus dur que les autres, mais il y a eu beaucoup de vocations littéraires chez les ouvriers mineurs.
Alors, d'une main, Edmond Tanière tient une plume, et de l'autre main, sa lampe de lampiste, qu'il va confier à sa fiancée, et du coup, il ne va plus avoir le goût de descendre au fond.
Lampiste, aime chaud lampiste, m'lampe elle va bien, mais m'y suis triste. Aime lampiste, aime chaud lampiste, garde à tes mains, m'lampe elle va bien. Acheteur d'attouches et fosses pour y trier le carbon, à niveau plus que des gosses, des filets, des garçons. À lampisterie pointe bile, on est tout émotionné quand t'as demandé chez Phil des lampes pour les vallées. Allez, ravissez de quoi, insère ses poils à sa bégame. Lampiste, et m'chote lampiste, m'lampe elle va bien, mais m'y suis triste. M'lampiste, et m'chote lampiste, garde à tes mains, m'lampe elle va bien. M'lampiste, et m'chote lampiste, m'lampe elle va bien, mais m'y suis triste. M'lampiste, et m'chote lampiste, garde à tes mains, m'lampe elle va bien.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le bassin minier du Pas-de-Calais, avec Diana Couper-Richec qui vient de publier une nouvelle forme, format de poche, Le peuple de la nuit, votre livre sur la mine et les mineurs au 19e et au 20e siècle. On va dans cette seconde partie, avant les élections législatives de juin 2012, parler de la geste politique dans le bassin minier. Va être organisée dans peu de jours une marche émilienne Mopti dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, du nom d'une militante de la grève de 1941 qui a été torturée, décapitée par les nazis. Partout, il y a des rues qui portent le nom de fusillés de la Seconde Guerre. Mais on ne peut comprendre ce qui s'est passé dans le bassin minier, Diana Couper-Rouchet, pendant la guerre, qu'en rappelant les années 30, la fordisation, le rôle des ingénieurs dans les normes multipliées, les chronométrages.
Alors, je crois qu'il faut remonter probablement aux années 30, à la crise économique. Les compagnies vont chercher à maintenir le niveau de leur production à tout prix pendant la crise. Donc, ils vont baisser les primes des ouvriers, ils vont baisser les salaires, ils vont faire des journées chômées. Et puis, surtout, ils vont surveiller et punir, comme dirait Foucault, les mineurs et leur imposer un chronométrage selon une méthode tout à fait particulière qui est une forme de fordisation appliquée à la mine.
On peut citer le nom de Monsieur
de
Bedeau.
Monsieur Bedeau qui a inventé ce système et donc on va imposer cela et ça va beaucoup mécontenter les ouvriers mineurs, pour une raison simple, c'est que les mineurs avaient une grande fierté de leur métier. Ils connaissaient le milieu, ils connaissaient la roche, ils connaissaient les gestes qu'il fallait faire. Et là, on leur impose tout de manière tout à fait mécanique.
Fordisation à l'américaine, productivité démultipliée. Alors, pendant les grèves du Front populaire, ils relèvent la tête, les mineurs. Mais quand intervient l'occupation, il y a à la fois la présence obsédante de l'armée allemande et le retour de ce qui avait été combattu en 1936.
Parce qu'il faut produire pour les Boches, il faut travailler pour les Boches. Et donc, cette surveillance qui s'était relâchée, elle va devenir beaucoup plus prégnante, beaucoup plus présente. Les chronométrages vont être multipliés. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le contexte de la guerre, les ouvriers ont faim. Ils n'ont pas de savon pour se laver. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui les gêne beaucoup. Cette hygiène du mineur est très importante. Donc le contrôle se renforce. Et ça va les entraîner finalement à des grèves qui vont être, dans un premier temps, revendicatives, mais qui vont devenir, à cause de la situation, des grèves patriotiques.
Alors les grèves de 41 sont un immense mouvement. On peut citer un nom que le Parti communiste d'aujourd'hui a oublié. Auguste Lecoeur, l'insaisissable meneur de cette grève. Beaucoup de répression et puis reprise à l'automne 43. Dès cet automne 43, la situation est explosive,
oui,
dans le bassin minier.
Absolument, à Carvin, à Courrières, par exemple. Mais ce qu'il faut remarquer, ce qui est souligné, c'est que la répression est très, très sévère. Elle est très sévère, mais les mineurs ont une façon à eux, derrière la revendication, de résister à l'occupant en ralentissant le rythme de travail. C'est quelque chose d'imperceptible, mais c'est un ralentissement et en même temps des actions plus spectaculaires comme des sabotages.
Ralentissement puis accélération après la libération. Les mineurs sont dans une situation un peu paradoxale parce qu'ils sont objets de la reconnaissance et de l'admiration de la nation. Ils sont objets de sollicitude. Ils obtiennent la nationalisation.
Oui.
Ils obtiennent le statut du mineur.
Hein, oui, bien sûr. C'est très important, qui est un espèce de code du travail qui rassemble toutes les lois que les ouvriers mineurs ont obtenues depuis 1914.
Mais ils sont objets de pression aussi. L'héroïsation, écrivez-vous, Diana Couper-Richer,
oui,
n'est pas sans risque, parce que voici la demande sociale. Vous aimez bien les publicités, les actualités cinématographiques.
La France a besoin de charbon. Les houillères françaises ont besoin d'ouvriers. Vous voulez bien gagner votre vie et assurer votre avenir? Vous désirez avoir un métier utile? Devenez mineur, premier ouvrier de France. Renseignez-vous au bureau de main-d'œuvre de votre département ou écrivez Charbonnage de France, 26 rue de la Baume, Paris.
Alors qu'en 1919, il avait fallu 5 années pour compenser la perte causée par la guerre, en 1945, moins de 2 années suffisent à combler le retard. Les mineurs relèvent la France avec leurs pics, avec leurs bras, avec leur cœur.
C'est la bataille du charbon.
Oui, c'est la bataille du charbon et tout le poids de cette bataille de l'industrie, de la réindustrialisation, de la production est sur les épaules des mineurs. On voit en France, à cette époque-là, des affiches qui portent l'intitulé suivant « Mineurs, le sort de la France est entre tes mains ». Et donc, les mineurs sentent cela et ils vont essayer vraiment de faire en sorte de produire les 100 000 tonnes de charbon par jour qui leur sont demandées par le Parti communiste français. Et dans le même temps, il leur est difficile de faire grève. On leur demande même de ne pas la faire. Et Maurice Thorez, dans un discours très fameux à Vasier, le 21 juillet 1945, dira « Produire, produire et encore produire, c'est aujourd'hui la forme la plus élevée de votre devoir de classe, de votre devoir de français. » Donc les mineurs ont quelque chose de lourd à porter.
Épuisement, dites-vous, parce qu'ils sont toujours très mal nourris. Et alors quand le ton du Parti communiste change, Maurice Thorez, fils du peuple, secrétaire général du parti, né à Noyelles-Godault, 11e circonscription du Pas-de-Calais. Et quand le Parti communiste et la CGT disent « Le climat est maintenant celui de la guerre froide et de l'affrontement. » Il y a des grèves auxquelles participent nombreux les mineurs en 1947 et puis surtout une grande grève en 1948. On retrouve d'ailleurs le nom au gouvernement de Queuille. Qui était évoqué tout à l'heure, oui. En 1934. Pauvre Queuille, qui a eu beaucoup de mérite pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui, aux yeux des communistes, n'est pas très populaire en 1948.
Alors, il faut juste rappeler que les mineurs, comme vous l'avez dit, ont obtenu pas mal de choses à la libération pendant cette période 45-47, jusqu'à ce que le gouvernement se sépare des ministres communistes. Les mineurs ont obtenu le statut du mineur et aussi, quelque chose d'important, en 45, la reconnaissance de la silicose comme maladie professionnelle. Arrivé à cette époque, le mécontentement existe toujours parce que les conditions de travail sont dures et parce qu'ils n'ont pas fait grève, parce que le rationnement existe toujours. Donc, ça va être l'enchaînement des grèves en 47 et puis la grande grève de 1948.
Alors, Queuille multiplie les avertissements. Voici en réponse un film qui a été produit par la Fédération CGT des industries du sous-sol. Tient la caméra le grand cinéaste communiste Louis Daquin et... Le commentaire, de plus en plus lyrique, c'est Roger Vaillant lui-même.
Ce métier, le feriez-vous, messieurs les politiciens? Le feriez-vous pour ce salaire de misère? L'effort des mineurs est méconnu, bafoué, saboté par le gouvernement. Les organisations syndicales décident un référendum. Les ouvriers chrétiens, les ouvriers FO et la CGT sont en plein accord. Cette grève est juste, cette grève est unanime, elle est votée à 90% des voix. Dès le début de la grève, la solidarité de la France entière se manifeste avec force. Toutes les couches sociales apportent leur aide, sachant bien que les justes revendications des mineurs, ce sont les justes revendications de tous. Le gouvernement, qui selon l'expression même de Jouot, espérait laisser pourrir la grève, ne se contente pas de menacer. Le 7 octobre, à Merlebach, le mineur Jean Sec est tué à coups de crosse. Et l'indignation monte dans toutes les poitrines. Parce que pour le peuple, la vie d'un homme, c'est quelque chose, monsieur Moche. Le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. La police lance des bombes lacrymogènes importées d'Allemagne. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles. Et c'est vous, monsieur Moche, qui en portez la responsabilité parce que c'est vous qui l'avez cherché et provoqué. Les mineurs aux mains nues ripostent avec ce qu'ils peuvent. Et on trouvera des tribunaux, on trouvera des juges pour condamner ces hommes que l'on accuse d'avoir utilisé des armes à feu. Moche le menteur tente d'assassiner aussi la vérité. La lutte des mineurs est la vôtre. Elle est la nôtre. Prenez garde. Tremblez, profiteurs et vendus. Le peuple vaincra. Il passera sur tout, sur vos chiens, sur vos tanks, sur vos mitrailleuses. Il passera, que vous le vouliez ou non, parce qu'il est le progrès, parce qu'il est l'avenir, parce qu'il est la vie même et invincible.
Et leur fameuse image finale au son de l'Internationale, une vieille femme de mineur, blanche, bras dessus, bras dessous, avec un mineur noir, parce qu'il n'y avait pas seulement des Marocains qu'on embauchait après-guerre, mais parfois des Noirs, moches, moches. Alors, rétablissons la vérité. C'est Jules Moch, trois fois cité, ministre socialiste de l'Intérieur. Moche, ça rime avec boche. J'emploie le mot parce que vous avez osé l'utiliser tout à l'heure, hein, Diana Cooper-Richet.
C'était une citation.
Une autre citation, CRS-SS. Ça se dit à l'époque.
Oui. C'est vrai que Jules Moch a fait appel aussi bien à l'armée, mais ça c'est une vieille tradition dans le milieu minier, qu'au CRS, que la répression a été très dure. La grève a duré 56 jours et on a arrêté beaucoup de mineurs. Les femmes se sont jointes à ce mouvement et la solidarité dans le pays a été énorme. On a eu des arrêts de travail qui ont regroupé plusieurs millions de personnes pendant cette période de la grève des mineurs en soutien aux mineurs.
La dernière grève des mineurs, ce sera un peu plus tard en 1963, la dernière grève importante, et on verra la même manifestation de solidarité. Dites-moi, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu dans le débat politique de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, mais les relations communistes-socialistes sont encore marquées par cette tension.
Cette tension, elle existe depuis 1920. C'est une vieille tension. Et il est clair que dans le bassin minier, il y a toujours eu des rivalités. Ces rivalités semblent se focaliser à l'heure actuelle, ou en tout cas depuis un certain nombre d'années, autour de la question des logements. Et on revient au début de l'émission, effectivement.
Mais avant qu'on en vienne à la question des logements et à la focalisation, il faut qu'on fasse quand même très brièvement, Diana Cooper, la chronique de la mort planifiée. Dès les années 50, les mineurs savent qu'ils s'engagent dans l'ultime bataille, diminution progressive des effectifs, concurrence du pétrole, fosse oui. qui meurt. Et là où le Far West a commencé dans le Pas-de-Calais, Oigny, 11e circonscription, c'est là que ça va finir en 1990.
On va assister dans quelques secondes maintenant à la dernière remontée de la fosse 9 d'Oigny, un moment toujours très émouvant. Nous sommes ici dans la lampisterie, les mineurs vont nous rejoindre à l'instant. Messieurs, si vous voulez venir, voilà, les mineurs arrivent de la cage, ils remontent donc, c'est la dernière remontée, messieurs, si vous voulez bien passer devant. Voilà. Jean-Marin Lécuyer, vous avez 44 ans, oui. 30 ans de fond, vous avez travaillé à la taille.
Oui, j'ai toujours travaillé en taille. Depuis l'âge de 18 ans, je travaille en taille.
Dans le Nord, on dit les mineurs sont mariés avec le charbon.
C'est vrai, c'est certain qu'on est né avec le charbon, parce qu'on est déjà né là-dedans. On a toujours été habitué à travailler le charbon, donc on est marié avec.
Aujourd'hui, cette fermeture constitue à vos yeux une déchirure.
Ben, c'est certain qu'on quitte un emploi, mais en même temps, on quitte une famille. Au fond, c'est la même chose qu'une famille. On va quitter beaucoup de camarades qu'on ne verra peut-être plus jamais, parce que ici à Oigny, c'est répertorié sur tout l'ensemble du bassin. On a des camarades de Béthune, on a des camarades de Valenciennes, de Lens, de Brué. Donc tout ça, ça va arrêter, on ne verra plus.
Les questions centrales qui vont se poser après que les mineurs ont accepté plus calmement qu'on aurait pu l'imaginer la fin. C'est celle du logement. Alors, vous insistiez là-dessus. Le logement gratuit et que les mineurs veulent garder, que leurs veuves veulent garder, que les ayants droit veulent garder. Et la bataille politique va être très longue, très violente entre d'un côté les charbonnages de France qui veulent valoriser les pavillons, parce qu'il n'y a pas que des corons, et d'autre part les élus socialistes, majoritaires, de plus en plus dominants, qui voudraient bien avoir les clés des logements.
Effectivement, on revient à la question de départ. C'est cette question centrale du logement, parce qu'il faut attacher cette main-d'œuvre localement. Et puis, pour un certain nombre d'élus, il faut attacher des électeurs dans la région et les convaincre du bienfait de voter pour eux. Cette question du logement, donc, elle tourne autour des corons, des pavillons, comme vous le dites. Et Charbonnage de France, en 1990, au moment où le dernier puits a fermé, était propriétaire en France de 73 000 logements, dont 55 000 dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais. Ces logements étaient dans un état très, très variable, avec parfois des gens en situation précaire dans les logements les plus vétustes, et puis les veuves de mineurs qui ne veulent absolument pas quitter des logements auxquels elles pensent avoir absolument droit à cause des difficultés du travail que leur mari a effectué pendant toute leur vie.
Question centrale aussi, celle de la reconversion. Mais là, vous allez me dire, Diana Cooper, que vous n'êtes pas économiste, mais historienne, et on ne va pas faire la liste des entreprises qui ont remplacé la mine, mais
elle serait pas très longue, de toute
Sansonite, façon. Qui ont fermé, ni dire que les chances viennent de l'agglomération lilloise, toute proche sur notre site, tout renseignement, la liste complète des candidats dans cette circonscription du Pas-de-Calais. Et puis l'annonce de l'émission de demain, c'est l'anniversaire de la naissance de Germaine Tillion. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Laetitia Legrand et Camille Poux-Jalaguier, réalisée par Jacques Sigal avec le concours de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos.